est libre.
Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice.
Le 18 décembre 2012, aux alentours de 21h30, un nourrisson de sexe masculin, Lucas, âgé de 2 jours, vêtu d'un pyjama bleu, a été enlevé à la maternité régionale située rue du Dr Heidenreich à Nancy par une personne de sexe féminin répondant au signalement suivant. Type européen, âge apparent 16-20 ans, corpulence mince, cheveux tirés en arrière avec franges rabattues sur le front. Elle serait vêtue d'un blouson, d'une chemise et d'un pantalon sombre et porteuse d'une écharpe. Elle aurait transporté le nourrisson dans un sac de couleur sombre, tenu en bandoulière. Si vous avez une information permettant de localiser l'enfant ou son ravisseur, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le numéro vert 0805 200 200 ou adressez un courriel à alerte.enlèvement@intérieur.gouv.fr.
Voilà, c'était donc l'alerte enlèvement déclenchée à la mi-journée par les autorités pour l'enlèvement donc d'un nourrisson de 2 jours hier soir à la maternité de Nancy. Vous écoutez France Inter, 15h04. La suite du programme, c'est avec Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis.
C'est pour parler de Depardieu. Il a le droit de faire ce qu'il veut. On n'a pas le dire que c'est minable ou truc comme ça. Et puis, si c'est pour faire les petits aigris de gauche, les petits connards qui vont être jaloux des autres, la vraie gauche, c'est aimer les pauvres, c'est pas à dire « Ah, il a plus d'argent que moi, et puis zut !» Et puis après tout, peut-être il devrait peut-être supprimer les ISF et peut-être qu'il y a d'autres, pays qui devraient aussi augmenter leurs impôts. Ça devrait être réglé. S'il y a des paradis fiscaux, c'est parce qu'il y a des enfers fiscaux et puis merde.
Oui, j'écoute le journal de France Inter et là, je me dis que quand même, la cause palestinienne, malgré tout, elle avance. Parce qu'au journal de France Inter, on emploie le mot coloniser. Hein? Israël colonise à tout va. Alors il fut un temps, c'était quand même un mot tabou qu'on n'entendait que chez l'armée.
Ben j'ouvre ma porte pour aller au ciné, et puis Daniel Mermet, je referme la porte, ça fait une heure que je suis dans la voiture, j'ai pris une bouffée d'oxygène. Hein, cet homme-là est vraiment un intellectuel cohérent, ça fait vraiment du bien. Ben, en tout cas, ça me fait toujours plaisir d'écouter des gens aussi éclairés. Je vous remercie encore. C'est vraiment très important.
J'ai entendu que M. Berger avait dit « Louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence ?» Alors j'ai pensé à Jonathan Swift qui, en 1729, avait écrit une modeste proposition pour empêcher les enfants des pauvres d'être à la charge de leurs parents ou de leur pays et pour les rendre utiles au public. Là-dedans, Swift suggérait que les enfants soient élevés au sein maternel, ce qui coûtait somme toute peu cher jusqu'à l'âge d'un an, puis abattus pour être mis au four et mangés par les gens des familles riches. Au moins Swift était hilarant, il n'était pas sérieux, mais Berger est très sérieux, et je me dis que la marchandisation des corps, à mon avis, c'est pas génial. À part ça, le texte de Swift est disponible sur Internet d'un bout à l'autre, et c'est vraiment hilarant, et ça met vraiment en cause le libéralisme. Allez, salut!
Bonjour, chers amis, ici le professeur Cornelius. Je vous donne un rendez-vous le 21. Si vous voulez passer pour un imbécile, ou un idiot, ou pire, un con, allez à Bulgarache. Toutes les télés seront là. Et vous ne manquerez pas de laisser votre petit testament audiovisuel. Pour la fin du monde. La fin du monde.
Ah, il est beau ce rire-là. Merci, cher AMG. Merci pour ces messages. La noblesse d'État, ça vous dit quelque chose, la noblesse d'État? Oui, c'est un long travail de Pierre Bourdieu. C'est quoi la noblesse d'État? Il n'y a plus de noblesse dans notre pays, elle a été abolie, la noblesse. Oui, mais elle s'est, d'une certaine façon, et c'est ça qui nous intéresse, reconstituée à travers, notamment, une institution qui s'appelle l'ENA. L'ENA, École Nationale d'Administration. C'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Vous dites, oh bon, mais ça, c'est pas rigolo, c'est des gens qui sont pas très rigolos. Vous avez peut-être pas entièrement tort, mais vous allez voir à quel point c'est un sujet très important, car ces gens-là ces gens-là, voyez-vous, eh bien, gouvernent, participent de très près au gouvernement, constituent en tout cas un pouvoir ou un rouage essentiel du pouvoir, on le sait, et on le sait encore mieux lorsqu'on lit un livre qui est sorti il y a assez peu de temps, à la rentrée dernière, d'Olivier Sabi, Promotion Ubu Roi, mais 27 mois sur les bancs de l'ENA. Vous avez compris, Olivier Sabi est un énarque et il a tenu son journal de l'intérieur même de cette école et il nous dit comment ça marche, comment ça fonctionne, comment cette lutte incroyable pour les premières places, vraiment la loi du plus fort à tout prix, comment on est encouragé à être le plus, se plier complètement à l'ordre des choses, à obéir, à devenir un parfait rouage. Si on est était très méchant, ce qui n'est pas du tout le cas de là-bas, si j'y suis, on pourrait parler de dressage. Mais on n'est pas méchant du tout et on n'emploiera pas ce mot-là. C'est très important parce que si on se soucie un peu de démocratie, on dit « Ah oui, c'était quoi déjà la démocratie ?» La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça veut dire, ça suppose un peuple éclairé. Un peuple éclairé qui, vous vous souvenez de ce que nous disait Cornelius Castoriadis, qui apprend à gouverner et à être gouverné. Eh bien, on en est extrêmement loin. On comprend, on se rappelle et on réalise à quel point nous sommes bien éloignés d'une véritable démocratie. Longtemps, pour nous, la démocratie, ça a été le contraire de l'autoritaire, ça a été le contraire du totalitaire, le contraire du fascisme, le contraire, etc. C'était la démocratie. Aujourd'hui, le contraire disparu. Le totalitarisme, ces différentes tyrannies se sont éloignées. Reste cette démocratie. Est-elle suffisante, cette démocratie, par rapport à ce vieil horizon qui était celui que je viens de décrire? Certainement pas, tant qu'on aura des administrations comme celle-là et des écoles qui préparent à l'administration de cette façon. Promotion Ubu Roi avec Olivier Sabi. Et puis au chemin faisant, on découvrira un mot qui s'est un petit peu éloigné, c'est le mot énarchie. Et le mot énarchie avait été inventé en 1967 par un gars qui avait écrit un livre avec d'autres, un ancien énarque avec deux autres énarques, et le livre était sur l'énarchie, sur les mandarins, était très très polémique envers eux. Et l'un des signataires, sous le nom de Mandrin, sous le pseudo de Mandrin, n'était personne d'autre que Monsieur Chevènement, qui était extrêmement critique à l'époque sur l'ENA. Les critiques de l'ENA sont régulières, mais pour des raisons corporatistes, pour des raisons de courant, de pouvoir à l'intérieur du pouvoir. Et ce livre, le livre d'Olivier Sabi, ne fait que prolonger, continuer l'interrogation sur cette formation qui, j'y insiste, me semble assez éloignée de ce que pourrait être le rêve démocratique. C'est notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Le Café Repère de Barcelone reprend du service depuis la Catalogne presque libre. Mais ici, le thème de l'identité nationale prend encore d'autres teintes qu'en France. Qu'est-ce que ça veut bien dire de défendre l'indépendance de la Catalogne aujourd'hui? Face à qui? Contre qui? Est-ce qu'on peut être nationaliste et en même temps profondément humaniste? On se posera toutes ces questions ce soir au Café Repère de Barcelone, en compagnie du sociologue Oriol Barranco. Et on commencera le débat à partir de 20h30 au bar Le Glaciar sur la place Areal de Barcelone. A bientôt. C'était Gabriel de Barcelone. Ciao.
Omar Sy a déclaré que sa famille et lui-même, par conséquent, lorsqu'il était petit, ayant vécu des allocations, il lui semblait normal de payer ses impôts en France et que c'était une façon de renvoyer la balle. C'est quand même incroyable ce qu'un propos et une attitude tout à fait normale, en fait, peut sembler extrêmement sympathique par contraste par les temps qui courent.
Salut Daniel, nous sommes des aides à domicile du 35 Ille-et-Vilaine et nous manifestons le 21 à Rennes devant le Conseil Général pour exprimer notre mal-être au travail et ras-le-bol devant l'immobilisme des élus concernant nos conditions de travail et salaire, notre précarité, qui ont forcément des répercussions sur les usagers. C'est un mouvement national, alors bougez les filles. Nous avons encore quelques droits, utilisons-les. C'était Laurence du 35.
Comment vous dire, l'ENA, c'est la porte d'entrée, et c'est ça l'essentiel.
Moi, je vais vous dire ce qu'il faut d'abord. Recrutement objectif, neutralité politique. Si vous voulez, un fonctionnaire, ça travaille sous tous les régimes.
On nous apprend à ne pas penser.
On ne parle pas politique, ce n'est pas le sujet, le lieu, l'endroit.
Allez les enfants !
Je m'appelle Thomas, j'ai 21 ans, je suis à Sciences Po et j'y suis rentré avec l'ambition de servir l'intérêt général.
On en rit,
mais c'est vrai,
très présent dans cette école.
Ne pas penser.
Est-ce qu'il est de notre monde, de notre milieu ? De notre société.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Sarah Lefebvre. Promotion Uburois, mais 27 mois sur les bancs de l'ENA.
Cette montée des anciens de l'ENA vers les plus hauts sommets n'est pas sans inquiète.
ORTF. Le 1er juillet 1974.
Dans son dernier ouvrage, Le Nœud Gordien, le président Pompidou évoquait cette nouvelle franc-maçonnerie.
Je soutiendrai volontiers qu'exiger des dirigeants du pays qu'ils sortent de l'ENA ou de Polytechnique est une attitude réactionnaire qui correspond exactement à l'attitude du pouvoir royal à la fin de l'Ancien Régime, exigeant des officiers un certain nombre de quartiers de noblesse.
Qui nous gouverne ? C'est la question qu'on se pose souvent, et notamment quand on regarde la télé, quand on écoute la radio, mais aussi quand on se demande comment ça se passe un peu plus secrètement dans des préfectures, d'autres collectivités territoriales, dans nos ministères, au sein même des postes à responsabilité de l'État. Et cette année est paru un livre en septembre 2012 qui s'appelle La promotion Uburois, mais 27 mois sur les bancs de l'ENA. C'est un jeune ancien de l'ENA qui a écrit ce bouquin qui s'appelle Olivier Sabi. Et on s'est dit, mais tiens, c'est l'occasion de répondre à cette question qu'on se pose. Alors voilà, on va le rencontrer ce soir. Et il avait justement rendez-vous aussi avec une très ancienne de l'ENA qui s'appelle Jeanne Penaud. On a rendez-vous chez elle, ils vont parler justement de l'École nationale d'administration. On est en plein cœur de Paris, dans le 6e arrondissement, pas loin du Jardin du Luxembourg et pas loin non plus de l'ENA qui est à Paris, des bureaux de l'ENA à Paris, même si la formation maintenant se déroule depuis quelques années à Strasbourg.
On est au quatrième.
Je peux rentrer comme ça ?
Ouais.
Ça marche, je vous rejoins.
Oh là là, quelle musique ! Parler là-dessus, présenter une émission... En parlant sur une musique pareille, c'est pas évident. Épouvantable, c'est martial, le mec avec son uniforme, ses galons, ses boutons dorés. On va essayer quand même de parler de la noblesse d'État. La noblesse d'État, c'était un souci, on vient de l'entendre, non pas seulement de Georges Pompidou à travers ce bouquin, dont j'avoue ignorer l'existence, le nœud gordien, mais ça a été aussi un souci et un grand travail de Pierre Bourdieu, qui se posait à peu près la même question que Sarah Lefebvre, qui va voir nos énarques. Comment s'est constituée la configuration singulière des pouvoirs intellectuels, politiques, bureaucratiques, économiques qui dominent les sociétés contemporaines? Comment ces pouvoirs, notamment ceux qui s'autorisent de l'autorité conférée par l'école, obtiennent-ils notre reconnaissance? Qu'est-ce que la compétence dont se réclament les technocraties? D'où ça vient tout ça? Eh bien, ça répond, selon Bourdieu, à une logique tout à fait semblable à celle des divisions d'Ancien Régime, nobles et roturiers, grande et petite noblesse. La noblesse d'État qui dispose d'une panoplie sans précédent de pouvoirs économiques, bureaucratiques et même intellectuels, et de titres propres à justifier son privilège, titre d'école, titre de propriété, titre de noblesse, est l'héritière structurale et parfois généalogique de la noblesse de robe qui, pour se construire comme telle, contre d'autres espèces de pouvoir, a dû construire l'État moderne et tous les mythes républicains, méritocratie, école, libératrice et service public. C'est un petit peu tassé, c'est pas si compliqué que ça en a l'air, mais en tout cas c'est intimidant. Vous avez vu le texte de Bourdieu comme c'est intimidant? Vous dites, ouh là 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 là, il y a déjà eu 20% d'auditeurs qui sont déjà partis écouter de la musique ailleurs. Vous avez tort, parce qu'il s'agit de lutter contre cette intimidation, contre cet effet permanent d'intimidation, à longueur de journée, de radio, de télé, de tout. On se laisse intimider par les experts qui arrivent et qui sont censés savoir. On va voir ce que c'est que le savoir à travers cette rencontre avec cet énarque, Olivier Sabi, ce jeune énarque qui, durant 27 mois de son passage à l'ENA, a pris des notes sur de l'intérieur. Il n'est pas le premier contestataire du fonctionnement de cette école qui a été créée en 1945, on va nous le dire, par Michel Debré, à la demande du général de Gaulle à l'époque, et on verra comment peu à peu cette école s'est rapprochée de ce que Pierre Bourdieu dénonçait. Mais la question, c'est l'intimidation, cette supériorité, cette arrogance, tout cet art d'intimider qui est l'art du pouvoir lui-même et dont nous sommes les jouets, parfois bien consentants. Comme si, effectivement, il y avait un certain plaisir à se soumettre. Probablement, il faut croire qu'il y en a un, car sinon ça n'aurait pas duré depuis aussi longtemps. Mais peut-être y aura-t-il, pour quelques-uns d'entre vous, un goût d'ici à 16 heures de cesser de se laisser intimider et de prendre un peu plus notre destin collectif en main. Qui sait? C'est là-bas si j'y suis. On est sur France Inter. Tu
vas avoir des attachements. Bonjour, madame.
Bonsoir. Enchantée.
Voilà, enchantée également. Je vais vous aider si je vais vous débarrasser. Tenez, là, c'est à...
Je dis bonjour à Olivier Sabi. Bonsoir.
C'est la première fois qu'on se rencontre, en fait, à l'initiative de Jeanne, qui m'a envoyé un très gentil message en me disant qu'elle avait lu le livre, qu'elle en avait parlé à la section retraités de l'Association des anciens élèves de l'ENA, de voir qu'ils ne comprenaient absolument pas l'idée de ce témoignage. C'était pour moi quelque chose de compliqué, en fait, de m'apercevoir que c'était impossible d'échanger sur ce sujet-là. Et donc, quand Jeanne m'a contacté, j'ai dit avec grand plaisir pour boire le thé ensemble. Et donc, tu m'as invité chez toi, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.
Êtes-vous pour ou contre la peine de mort ?
Éclairez-moi. Elle existe toujours ?
Aspirez-vous à la célébrité ?
J'aspire à être utile.
Vous avez fait normal lettre avant de présenter le concours de l'ENA. Selon vous, la littérature a-t-elle encore une utilité dans le monde d'aujourd'hui ?
En ce qu'elle est un témoin de notre société et un outil de civilisation, oui, je le crois.
Que la normalienne nous donne l'étymologie du mot « travail ».
Travail vient du mot latin « tripalium », un instrument de torture.
Un mot positif qui se termine en « assi ».
Démocratie.
Un mot négatif.
Phallocratie.
On m'appelle singe savant, demain je serai président. J'ai de l'argent dans les artères, une rivière de militants. Ça va faire un sacré boucan. On m'appelle singe savant, ne fais pas de manière, et c'est ça va te plaire. Attends un peu septembre, comme je vais bien me vendre. Très très cher. J'ai deux couteaux entre les dents, parole en l'air et droit devant. À la télé comme à la guerre, décidé à bien vous la faire. À l'envers. Et du fond d'un ministère jusqu'au sommet de l'État, j'irai faire.
Il y a 20% de crétins partout, je présume que la proportion est la même parmi vous. Je suis heureux et fier de diriger cette école qui n'a pas d'équivalent dans le monde et qui symbolise la méritocratie à la française. Cette année, votre promotion compte un fils de pêcheur, M. Marchand, et un fils d'ouvrier, M. Ribeiro. Voulez-vous lever la main, M. Ribeiro ? Soyez honnête, rigoureux, ponctuel. Observez votre devoir de réserve et soignez votre style. Très vite, vous-même, vous serez des formateurs. Ne montrez pas de morgue, il ne faut pas se tromper d'époque. Aujourd'hui, le pouvoir hiérarchique ne suffit plus. Associez vos personnels à l'élaboration de vos décisions, en particulier lors de vos stages en préfecture et en entreprise. Enfin, je vous rappelle l'importance des réseaux et vous recommande de vous lier les uns avec les autres. Et n'oubliez jamais que vous servez la grandeur de la France.
Je m'appelle Jeanne Penaud. Je suis rentrée à l'ENA en 1966, sortie en 1969. J'ai toujours travaillé dans la fonction publique, direction générale de la fonction publique, directeur des études à l'Institut international d'administration publique et enfin délégué aux fonctionnaires internationaux auprès du Premier ministre.
Olivier Sabi, j'étais à l'ENA en 2009-2011, promotion Robert Badinter. Et j'ai écrit récemment un témoignage qui est un journal de bord de ma scolarité qui s'appelle Promotion Hugues-Leroy, sorti chez Flammarion.
Vous veniez de sortir de l'ENA, en fait ?
Tout à fait. Alors, en fait, j'ai voulu faire un témoignage éclairant pour les gens qui s'intéressent à l'ENA, mais plus généralement à la vie française, puisque les énarques sont un petit peu partout, dans les administrations, en politique, dans les entreprises privées. Et je pense que la formation n'est pas neutre et donne des clés de compréhension de ce qu'est la France aujourd'hui. Et quand j'ai préparé l'ENA, j'avais une image de ce que pouvait être cette école. Et quand j'y suis rentré, je suis allé de surprise en surprise. Et je me suis dit, c'est un petit peu dommage d'être obligé d'avoir fait l'ENA pour comprendre. Et donc, j'ai travaillé après l'école. Donc, il a fallu que je remobilise mes souvenirs pour pouvoir écrire ce livre, qui est un journal de bord, en fait, jour après jour de la scolarité à l'ENA, pour permettre à ceux que ça intéresse de comprendre comment les énarques sont formés. Et donc, l'idée n'était pas de cracher dans la soupe, l'idée était d'expliquer ce qu'il y avait dans la soupe. Donc, j'ai reconstitué avec mes souvenirs, et ensuite, j'ai fait lire à 5 camarades de promotion, de façon à ce qu'ils me disent si jamais ce qu'on avait vécu ensemble n'était pas fidèlement retranscrit dans le livre. On a travaillé ensemble, on a enlevé des passages, on a rajouté des passages, et une fois qu'on était d'accord tous les 5 sur le contenu, j'ai décidé de donner le feu vert pour la publication.
Et eux n'ont pas voulu signer le livre avec vous ?
Non, alors ils m'ont dit... Ça fait rire Jeanne. Ils m'ont dit, on te soutient.
Non. Oui,
non. Ils m'ont dit, un, on te soutient. Deux, on pense que c'est vraiment bien que quelqu'un le fasse. Trois, publiquement, on ne dira pas qu'on le savait. Et effectivement, certains d'ailleurs, au moment où c'est sorti, ont dit, ah, mais quel scandale de sortir un livre comme ça. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est ma surprise face à un système qui est très, 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 très rigide. En tant qu'élève, j'ai vécu ces 27 mois, alors à Strasbourg, à Beyrouth, à Brest, à Tokyo, puisque je raconte les cours à Strasbourg, alors qui sont plus ou moins inexistants, et puis les expériences de stage. Il n'y a aucune révélation. En revanche, c'est la première fois qu'on peut vraiment comprendre comment ça marche, parce qu'on a plein d'idées. Et j'ai essayé d'expliquer ce qui, moi, m'a surpris le plus, c'est-à-dire que face à une formation qui est indigente, et face à des guides, des gens, la direction de l'école, la direction de la formation, la direction de la scolarité, très souvent, quand on s'en ouvre à eux, ils nous disent « mais vous savez, ça a toujours été comme ça ». Ça a toujours été comme ça, et donc on est dans un système totalement mortifère qui considère que la simple idée de parler du fait qu'il y a des imperfections est déjà quelque chose qui ne se fait pas. Et donc à partir du moment où on n'est pas capable de dresser l'existant, on ne peut pas réfléchir intelligemment à comment on va améliorer les choses. On nous apprend à ne pas penser. C'est-à-dire qu'en fait, vu que la plupart des intervenants sont des souvent autoproclamés experts, très souvent anciens élèves de l'ENA, qui viennent, et le format de base, c'est la table ronde. Et donc la table ronde, on a 4 ou 5 experts qui dissertent d'un sujet, et puis nous, élèves de l'ENA, qui prenons des notes. Alors ça pourrait être intéressant, sauf que la plupart du temps, ce que je dis dans le livre, à l'époque, il nous servait la révision générale des politiques publiques, donc le mouvement de réforme du président Sarkozy, sans jamais nous expliquer qu'il y avait un vrai parti pris idéologique derrière cet RGPP. Et donc à des jeunes futurs fonctionnaires, à des jeunes fonctionnaires, on apprenait qu'il n'y avait pas d'autre choix que la RGPP, en fait. Et donc on n'a aucun cours d'économie à l'ENA. On a soit des tables rondes de gens de Bercy qui viennent expliquer ce que pense Bercy de l'économie, soit, c'est l'autre format avec les tables rondes, des notes de synthèse. Et les notes de synthèse se font à partir de dossiers constitués, alors en économie, de notes de Bercy. Donc en fait, moi, en étant passé pendant 27 mois à l'ENA, je ne connais rien à l'économie. En revanche, je sais très bien ce que pense Bercy de l'économie. Quand ensuite, vu qu'il y a une vraie porosité en France entre la politique et la haute administration publique, quand vous retrouvez en cabinet, ce qui est le cas de gens de mon âge, de ma promotion, et qu'un ministre vous dit, bah alors, fais-moi une note sur tel sujet, on ne connaît pas les fondamentaux, je reste sur l'économie. On voit bien aujourd'hui qu'on est incapable de réfléchir au sujet d'économie autrement que comme on y pense depuis 30 ans, 40 ans. Et la question du chômage, par exemple, avec le rapport Gallois récent, où il n'y a absolument aucune innovation. Il n'y a absolument aucune innovation, c'est toujours les mêmes recettes. Qu'est-ce qui se passe, Jeanne ?
Quelle maîtresse de maison épouvantable je fais, tu vois.
Merci, Jeanne.
Alors on va interrompre, on va retrouver nos énarques, mais on va interrompre l'émission quelques instants pour la diffusion de ce message.
Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice.
Le 18 décembre 2012, aux alentours de 21h30, un nourrisson de sexe masculin, Lucas, âgé de 2 jours, vêtu d'un pyjama bleu, a été enlevé à la maternité régionale située rue du Dr Heidenreich à Nancy par une personne de sexe féminin répondant au signalement suivant. Type européen, âge apparent 16-20 ans, corpulence mince, cheveux tirés en arrière avec franges rabattues sur le front. Elle serait vêtue d'un blouson, d'une chemise et d'un pantalon sombre et porteuse d'une écharpe. Elle aurait transporté le nourrisson dans un sac de couleur sombre, tenu en bandoulière. Si vous avez une information permettant de localiser l'enfant ou son ravisseur, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le numéro vert 0805-200-200 ou adressez un courriel à alerte.enlèvement@intérieur.gouv.fr.
Voilà, vous avez compris, 0805-200-200, si vous avez des indications à donner. Donc, on va reprendre le fil de notre émission avec nos deux énarques, Olivier Sabi et Jeanne Penaud.
L'École nationale d'administration justifie-t-elle sa réputation ?
ORTF.
Créée en 1945 par Michel Debré pour démocratiser la fonction publique.
2 juillet 1974.
L'ENA, qui a formé près de 3000 hauts fonctionnaires, représente pour les uns une entreprise spécialisée dans la fabrication des directeurs de cabinet. Pour les autres, le creuset d'où sortent les meilleurs administrateurs du monde. Mais d'abord, qu'est-ce que l'ENA ? Qu'apprennent-ils ces étudiants pour conquérir si aisément les principaux leviers de commande ? Bref, qui sont ces énarques estimés, critiqués, mais dont l'efficacité est reconnue même par leurs adversaires.
Bernard Boucaud, fils d'artisan. Michel Collin, fils d'expert comptable. Yves Lyoncan, fils de professeur d'université.
Martine Aubry, fille de haut fonctionnaire. Isabelle Bouillot, fils de directeur de société.
Bernard Bajolet, fils d'ingénieur.
Elisabeth Buxpan, fille de salarié.
Louis Mermet, fils de représentant de commerce.
Au total, ces énarques, comment se jugent-ils ? Un portrait robot tracé par les élèves et les anciens de l'école.
C'est un jeune homme qui a de l'ambition.
C'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup.
C'est de représenter les meilleurs élèves de la bourgeoisie. Quand on aperçoit, ça pose parfois des problèmes. C'est d'être un démocrate qui a des drames de conscience.
Un jeune homme très brillant, très rigoureux et très sérieux, issu, malheureusement, presque exclusivement de la bourgeoisie parisienne.
Si vous répondez à ces critères, si vous avez en plus le goût pour le service public, vous avez l'étoffe d'un énarque. Il ne reste plus qu'à réussir au concours, mais cela... c'est une autre histoire. 1500 candidats, 130 places.
Merci. Je me suis adaptée. Ah ! Non, ça c'est bon. Moi, je suis rentrée à l'ENA. J'ai découvert l'ENA à l'université à Toulouse. Et mon professeur de Sciences Po m'a dit, mais il vous faut préparer l'ENA. Ce à quoi je lui ai répondu, mais à Toulouse, personne n'est reçu à l'ENA. D'ailleurs, je crois que je ne suis pas sûre que les choses aient beaucoup changé. Je n'ai pas été reçue la première année, ça n'a pas été facile. Et j'étais du concours interne après 10 ans de travail dans l'administration.
Parce qu'il y a 3 concours différents à l'ENA.
D'entrée. Donc il y a le concours étudiant, ensuite il y a le concours fonctionnaire, des gens qui ont travaillé dans l'administration au moins de 5 ans. Parfois plus, qui ont une préparation, mais une préparation en travaillant, c'est pas toujours facile. Et puis après, donc, ce troisième concours, des gens qui viennent du secteur privé, il y a des médecins, il y a des élus locaux.
Alors moi, il y avait un trader, oui. Il y avait un syndicaliste, un trader et un patineur artistique. Sur 80 élèves de ma promotion, il y en avait 38 qui étaient des externes, donc des étudiants de, en gros, 25 ans, maximum 30 ans, qui avaient fait d'autres écoles avant. Donc souvent, il y avait des HEC, Sciences Po, ENA, Normale Sup, Sciences Po, ENA, voilà, qui cumulent les diplômes. 38 donc, 38 internes qui sont des gens qui ont déjà une expérience dans l'administration, ce qui était le cas de Jeanne. Et ensuite, dans ma promotion, donc 38 et 4 qui venaient du secteur privé.
C'est que le fait de l'âge et de l'expérience sont des éléments négatifs. C'est-à-dire que, alors que même on pourrait imaginer que pour un fonctionnaire avoir passé le concours avec une famille et tout ça, ça dénote des qualités de caractère qui peuvent être utiles dans la vie professionnelle après. Mais il y a une espèce d'image lisse de l'élève. Et c'est vrai que des gens qui ne sont pas sortis dans des grands corps...
C'est quoi les grands corps ?
Alors, les grands corps. Il y a grand corps classique, c'est le Conseil d'État, l'inspection des finances et cours des comptes.
Pourquoi les grands corps, vous savez ça ?
Parce que c'est vraiment l'aristocratie de l'administration.
Quand on sort de l'ENA, on intègre un corps. Ce que je trouve intéressant de dire on intègre un corps. Et souvent, des gens qui avant étaient soit en administration mais à des responsabilités moindres, soit n'avaient jamais travaillé, tout à coup, leur monde devient l'ENA. Il y a même en plus des couples qui se forment, des familles d'énarques, etc. Et donc en fait, toutes ces questions autour de l'ENA, du classement, prennent une importance très grande dans leur vie. Premièrement, parce qu'ils conditionnent effectivement les carrières ensuite, puisque suivant là où vous sortez, les corps dans lesquels vous sortez, donc suivant votre classement, vous n'aurez pas les mêmes carrières. Première raison pour laquelle le classement prend une importance si grande. Et puis deuxième raison, je pense que Quand vous mettez, puisqu'on est tous des premiers de la classe, Aléna, on est tous des gens qui avons bien travaillé à l'école au premier rang, quand vous mettez, vous faites l'école des premiers de la classe, et que pendant 27 mois, vous ne leur donnez rien à mouliner intellectuellement, parce que, comme je le disais, les cours n'en sont pas, la formation est totalement indigente, on a des gens qui, en fait, bouclent sur le même problème en permanence, et ce problème, c'est le classement. En fait, on n'a que ça à moudre comme grain.
C'est quand même un peu un cocon doré. Parce qu'on est dans un cocon, on est rentré là, tout est organisé, tout est prévu. Alors, c'est très sécurisant en un sens.
Et il y a tout un pan du pays qu'on ne voit pas. Et c'est pour ça qu'il me semble que le système devrait être là justement pour nous mettre les mains dans le cambouis là où on ne va pas normalement, pour nous faire rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait pas normalement. Parce que quand on va en entreprise, ce n'est pas pour aller travailler avec la PME du coin qui a des problèmes pour joindre les deux bouts à la fin du mois pour payer ses charges. C'est directement dans une boîte du CAC 40 et rattaché au directeur général. Ce qui est d'ailleurs le cas quand j'arrive chez Darty où je suis rattaché au directeur des opérations. J'ai fait un stage très intéressant et je dis au début, est-ce que je pourrais aller voir comment travaillent les gens de Darty? Donc il me dit, si tu veux, on va t'envoyer réparer des machines à laver. Mais ce n'est pas ce qui est prévu quand on arrive en stage dans une entreprise en tant qu'élève de l'ENA.
Oui, des stages ouvriers. Il y avait des stages ouvriers à mon époque. Moi, je suis passée 8 jours au printemps dans un truc de vente, quoi. J'étais vendeuse au printemps, ce qui est d'ailleurs assez intéressant, parce que j'ai une collègue de bureau qui est venue habiller son fils, qui ne m'a pas reconnue. Ça m'a d'ailleurs été très instructif, parce que je me suis dit, comment les vendeuses sont perçues.
Est-ce que vous l'aviez fait avant de rentrer à l'école, par exemple, ce métier-là ?
Au printemps, comme cliente. Et moi, mon mari était à la Banque de France. Quand il est rentré comme rédacteur, il était au guichet.
Il a fait l'ENA, votre mari ?
Ah non, il ne l'a pas fait. Il a commencé, il a travaillé au guichet, mais pas au guichet pour voir, comme ça. Moi, j'ai vendu des culottes au machin. Au guichet, faire la caisse le soir, faire les choses comme ça. Bon. Et donc, il a fait ça, puis après, il est monté, il a passé des concours et tout ça. Et quand on sort de l'ENA, on ne va pas au guichet. On ne va pas au guichet quand on sort de l'ENA.
Madame Da Silva, allez me chercher les macarons pour le thé, s'il vous plaît. On entend comme le new metal de Pierre-Édouard.
Pierre-Édouard, baisse ta musique. Pierre-Édouard, je vais appeler ton père.
Je fais du tort à mon papa. Je suis un petit bourgeois méchant. Je fais du tort à mes parents. Papa est grand PDG. Il a plus de 1000 ouvriers, mais le peuple m'ennuie vraiment. Je trouve ça moche et puis ça sent. Je parle verlan devant ma mère, car je sais que ça l'exaspère. Je parle pointu devant les petites gens. Je le regarde d'un air méprisant.
Méchant, méchant, méchant petit bourgeois. Méchant, méchant.
Voilà Olivier Sabille qui a pu constater au cours de ces 27 mois la vacuité et l'indigence de l'enseignement de l'ENA, où l'on apprend sans doute à administrer et à gérer, et certainement pas à inventer et innover. Alors, c'est pas forcément grave, sauf que malgré tout, à peu près tous les leviers de l'État et des politiques publiques sont aux mains de ces gens-là, de ces énarques, et notamment avec le gouvernement actuel. Alors avant l'ENA, il y a Sciences Po. Il parlait de cette école, Sciences Po, ça tombe bien parce que Olivier Sabille, l'auteur de ce bouquin, y enseigne.
N'importe comment, tu danses trop bien, attends, moi je savais pas danser.
Olivier Sabille.
Alors là du coup on est devant Sciences Po Paris où je donne des cours de droit public. Et on va aller voir des élèves qui sont en prépéna et donc ils m'ont demandé si on pouvait se rencontrer. Donc on va y aller ensemble.
Dans un café pas loin.
Chers auditeurs, bonjour.
Victor, allez-y.
moi je prends un express aussi.
Un express. Un deux. Trois. Quatre.
Coca.
Oui, je m'appelle Thomas, j'ai 21 ans, je suis à Sciences Po et j'y suis rentré avec l'ambition de servir l'intérêt général.
Bonjour, je m'appelle Clément, donc j'ai 21 ans également. Je suis également rentré à Sciences Po en première année, donc je viens de région parisienne, même si j'ai grandi à l'étranger en partie. J'ai pensé à préparer l'ENA en rentrant à Sciences Po, parce que j'ai toujours été intéressé donc, par l'État, son histoire, son fonctionnement, etc. Ainsi que l'idée du service de l'intérêt général qui m'attirait.
Bonjour, donc moi je m'appelle Baptiste, j'ai 22 ans, je viens du Jura. Je suis rentré à Sciences Po en première année donc au collège universitaire, avec la volonté de servir l'État.
Bonjour, je m'appelle Tristan, donc je suis aussi entré à Sciences Po en première année après le bac, par le concours. Servir l'État, me mettre au service de quelque chose, de l'administration, du service public, c'est quelque chose qui m'est très cher depuis longtemps. Et maintenant que je suis en master affaires publiques, justement, c'est l'objectif que je me fixe. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Victor, je viens du Nord-Pas-de-Calais. Je suis également issu du collège universitaire de Sciences Po et j'ai également l'ambition de servir l'État. Parmi mes frères et sœurs, la majeure partie est fonctionnaire, donc c'est un peu cette filiation qui me pousse également à servir l'État qui en a besoin, je crois.
C'est quoi en fait pour vous servir l'État ? Parce que ça m'a toujours paru bizarre qu'à 21 ans, et vous n'êtes pas les premiers que je rencontre, hein, mais on me dise, mon ambition c'est de servir l'État.
Oui, pour moi c'est peut-être dû au fait que mes parents sont fonctionnaires aussi, mais... Mon père est professeur d'université et ma mère bibliothécaire. J'ai été surpris le jour où on m'a expliqué qu'une entreprise servait à faire des profits. J'étais terrorisé presque par cette idée. J'ai encore du mal à comprendre le concept de profit, je pense. Mais ultimement, je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y avait que par le service de l'intérêt général et entre autres, manifestement par le service de l'État, que je serais satisfait.
Moi, ce que j'apprécie dans l'État et cette entreprise à laquelle j'aimerais participer, c'est l'idée de se mettre au service d'un absolu. Je pense que c'est quelque chose de très gratifiant de participer à ce grand projet-là. Et justement, l'ENA, pour moi, c'est la façon d'avoir le plus de responsabilités possible à l'intérieur de ce projet.
Aujourd'hui, moi, j'ai fait le rêve d'une humanité. Wow ! Plus humaine, sans haine. Et sans méchanceté. Solo. Une humanité moins pourrie, où seulement les gens gentils seraient accueillis. Une humanité plus pure, où les gens méchants auraient la vie dure. Parce que je sais pas vous, mais moi les gens qui sont méchants, ils me foutent les boules. D'ailleurs, rien qu'à leur sale tronche, ça se voit qu'ils sont pas cool. Un jour, je vais plus tolérer de les voir passer devant ma maison. Et s'ils veulent pas comprendre, j'ai des solutions. Et tous ceux qui pensent pas que j'ai raison, je les bute.
Beaucoup au sérieux. Franchement, j'ai pas raison, non ? Franchement, hey, si c'est pour buter des méchants, ça va, on peut le faire, non ? Sans déconner, si c'est des méchants.
C'est au niveau des... Allez, je prends les lampes de poche, attendez.
Je cherche... Ah voilà, il y a un interphone magnifique doré avec AAE ENA, Association des anciens élèves de l'ENA. J'appuie...
Oui, bonjour, j'ai rendez-vous avec Christine de Metz.
Oui, très bien.
Un tapis sur les marches. Du marbre par terre, c'est magnifique. Et cette plaque, association des anciens élèves de l'ENA.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes équipée.
Il est magnifique votre bureau.
Oh, c'est moi, je m'en sers très peu, ça fait salle de réunion. Asseyez-vous.
Merci. Et alors justement, pourquoi le siège de l'association est ici, boulevard Saint-Germain ?
Parce que vous êtes un bébé, donc vous ne vous souvenez pas, vous n'étiez pas né, mais pendant des années, le siège de l'école, l'administration était rue de l'université, donc derrière. Et donc il a paru commode que l'association des anciens élèves ne soit à proximité du siège de l'école.
Et vous êtes aussi juste à côté de Sciences Po, Paris, où il y a des élèves qui préparent l'ENA ?
Ah oui, mais alors là, moi, si vous voulez, je ne m'occupe absolument pas de sciences politiques. Ce n'est absolument pas notre problème. Il faut faire totalement la différence que ne font rarement les journalistes. Les élèves de l'ENA ne sont pas tous issus de Sciences Po, contrairement à une vilaine légende. Et en plus de ça, si vous voulez... Bon, alors Sciences Po a repris l'ancien siège de l'école, mais on ne s'occupe absolument pas de ce qui touche à sciences politiques. Voilà.
Alors, Madame Christine Demesse, je vais vous laisser vous présenter.
Ah, alors, oui, je suis Christine Demesse, présidente de l'Association des anciens élèves de l'ENA depuis février-mars 2011. Première femme à la tête de l'association et finalement passionnée de l'aide parce que c'est une tâche très enrichissante et passionnante. Alors, vous savez, je ne suis pas une perdrix de l'année, donc je suis de la promotion Henri-François Daguesseau, 82.
Bon, je suis un bébé, mais j'essaie d'apprendre. Et j'ai lu aussi un livre dernièrement qui est paru en septembre.
Vous allez me parler de M. Sabi.
Qui a écrit La promotion Hubert-Roy.
Oui, oui, oui. Bon, écoutez, moi j'ai parcouru ce livre parce que ça touche effectivement à l'école. Comment vous dire ? Je suis un petit peu ennuyée pour vous répondre parce que, sur le fond, je trouve que ce genre de livre, quand vous avez fait l'école, c'est pour moi un petit peu... cracher dans la soupe, pour être clair. On a l'impression, durant tout ce livre, que, en gros, pratiquement tous les stages, il est mal tombé. C'est vrai que les formations académiques ne servent pas à grand-chose, puisqu'en général, tous les gens qui ont passé le concours sont à peu près à niveau d'égalité concernant ces formations, et que ce sont uniquement sur les formations pratiques qu'il faut axer l'école. Parler de la capacité de négociation, enfin, si vous voulez, il y a des tas de choses très pratiques qu'il faut vraisemblablement mettre en place.
Donc la technique...
Accenter le côté pratique des formations.
Mais la question que je me pose, c'est quelles sont les qualités requises au sein de l'École nationale de l'administration pour un élève ?
Alors, moi, je vais vous dire ce qu'il faut d'abord. Recrutement objectif, neutralité politique dans l'exercice.
On ne demande aucun engagement politique à un élève.
Non, bah surtout pas. Mais attendez, un fonctionnaire se doit de le faire, quel que soit le responsable politique qui le lui demande. Si vous voulez, un fonctionnaire, ça travaille sous tous les régimes. On ne parle pas politique. Ce n'est pas le sujet, le lieu, l'endroit. Enfin, c'est comme si vous me disiez, quand vous travaillez, vous, quelque part, est-ce que vous travaillez en fonction de vos opinions politiques ? C'est dramatique dans ces cas-là. Il faut faire le départ entre votre profession et vos opinions. Sinon, on n'est pas en démocratie, en république.
Si l'on vous demandait à brûle-pourpoint quelle est, en France, la plus grande des grandes écoles, je pense que vous seriez embarrassé pour répondre.
ORTF.
Pendant longtemps, en effet, c'est Polytechnique qui a tenu le haut du pavé.
1er juillet 1974.
Mais depuis quelques années, il y a l'ENA, autrement dit l'École nationale d'administration. C'est une école assez mal connue du grand public, mais dont les porte-drapeaux, en quelque sorte, constituent une partie du gotha de la classe politique française. Vous savez que le président de la République et le chef du gouvernement, pour ne citer que messieurs Giscard d'Estaing et Chirac, sont des énarques.
Depuis l'élection de monsieur Giscard d'Estaing à l'Élysée, l'École nationale d'administration est devenue synonyme d'école du pouvoir. Le président de la République, promotion Europe, ses hommes de confiance à l'Élysée, le premier ministre Jacques Chirac, promotion Vauban, deux ministres, Michel Poniatowski, promotion Croix de Lorraine, Jean-Pierre Fourcade, promotion Félix Éboué. Quatre secrétaires d'État, une dizaine de directeurs de cabinet sur 33 et plus de 50 conseillers techniques et chargés de mission sur une centaine au gouvernement sortent de l'école de la rue des Saints-Pères. Bref, pour beaucoup, c'est le temps des énarques. Dans son dernier ouvrage, Le Nœud Gordien, le président Pompidou évoquait cette nouvelle franc-maçonnerie.
Je soutiendrai volontiers qu'exiger des dirigeants du pays qu'ils sortent de l'ENA ou de Polytechnique est une attitude réactionnaire qui correspond exactement à l'attitude du pouvoir royal à la fin de l'Ancien Régime, exigeant des officiers un certain nombre de quartiers de noblesse.
À l'Assemblée nationale, le porte-parole du Parti socialiste, Jean-Pierre Cotte, stigmatise ce qu'il appelle cette caste au pouvoir.
Oui, il s'agit de moderniser la France. Et comment ? Comment ? Eh bien, avec une caste d'hommes qui arrive aujourd'hui au pouvoir. Une nouvelle génération, c'est vrai, mais pas n'importe laquelle. La génération qu'on appelle celle des énarques. Oui, l'énarchie qui investit les places fortes, l'École nationale d'administration. Ironie du sort, Michel Debray, que cette école que vous avez créée avec d'autres pour démocratiser la haute fonction publique soit chargée aujourd'hui de liquider ce en quoi vous croyez.
Ouais, attaque très dure, mais à l'Assemblée nationale hein, de Jean-Pierre Cotte, contre effectivement Michel Debray, père de cette ENA en 1945. Alors j'ai évoqué, c'était pas possible de ne pas le faire, la figure de Pierre Bourdieu et ce travail considérable qui a été la noblesse d'État. Et on a rencontré avec Sarah une grande sociologue, Françoise Dreyfus.
Françoise Dreyfus, on est ici chez vous, dans votre bureau. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne et vous avez écrit nombre d'ouvrages sur la haute fonction publique. Alors vous avez écrit « L'invention de la bureaucratie, servir l'État en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis du 18e au 20e siècle ». Donc ça c'était en 2000, donc ça fait partie de vos ouvrages. Alors justement c'est intéressant de voir comment ce terme de « servir l'État » revient régulièrement, tout comme celui d'intérêt général. Tout un vocabulaire comme ça, qui crée dès le départ, en fait, une différence, un contraste énorme entre nous, citoyens, et ces hauts fonctionnaires. Donc il y a plein de mots qui font partie du vocabulaire des énarques, et il y a des mots qui ne font pas partie des leurs. Je pense par exemple au mot « pouvoir », je pense aussi au mot « élite ». Comment est-ce qu'on l'explique, ça ?
Dans un pays comme la France, qui s'est construit depuis la Révolution sur le principe de l'égalité au moins théorique, bien sûr, l'idée dominante, c'est que notre système est éminemment méritocratique. Autrement dit, la réussite n'est pas due à votre naissance ou à vos moyens financiers, mais au fait que vous êtes le meilleur. Et comme l'a parfaitement montré Bourdieu dans La noblesse d'État, c'est effectivement un grand mythe. Et la méritocratie républicaine s'avère en fait une sorte d'occultation de la réalité sociale qui privilégie de facto ceux qui ont le plus de capital social, le plus de capital culturel, et qui va les aider à mieux réussir que ceux qui ne sont pas dotés de ces capitaux-là.
Donc alors aujourd'hui, les élèves qui accèdent à l'ENA ou qui préparent l'ENA, ils ont fait quoi avant ?
Ben, généralement, ils ont fait Sciences Po. Et quand je dis Sciences Po, c'est évidemment Sciences Po Paris, puisque le taux de réussite des anciens de Sciences Po Paris est plus élevé, nettement plus élevé, que des IUP de province. Et comme l'IEP est déjà un établissement sélectif, ça veut dire que la sélection, elle se fait à l'entrée à Sciences Po, donc à la sortie du bac. Donc, quelle est la capacité de créativité qui vous reste quand vous avez été formaté comme ça pendant des années ? L'ENA, c'est la porte d'entrée, et c'est ça l'essentiel. Justement, la probabilité de bien sortir, pour utiliser ce vilain terme,
dans les 15 premiers.
Oui, eh bien, je pense que c'est quand même très lié au savoir-être. Et d'ailleurs, c'est Bourdieu qui cite ça dans La noblesse d'État. Il explique que l'un des éléments donnés par des jurys, c'est finalement, quand un candidat passe devant nous, on se dit, est-ce qu'on aurait envie de travailler avec lui ? Est-ce qu'il est de notre monde, de notre milieu, de notre société ? Et finalement, c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est de l'entre-soi. Je veux dire que ce n'est pas le fond de ce qu'ils apprennent ou de ce qu'ils n'apprennent pas qui est important.
Nous l'avons tous connu, ce fonctionnaire qu'on retrouvait dans toutes les administrations, ce fonctionnaire vieilli sous le harnais et encombré de toutes les manies et de toutes les entraves.
Mais depuis sa création en 1945, l'ENA tient son rang. 80% de ses élèves accomplissent leur carrière dans l'administration et non des moindres. Son lot de présidents, Jacques Chirac, de premiers ministres, Édouard Balladur ou Laurent Fabius. Mais l'heure des choix aurait donc sonné. Hier, Alain Juppé a parlé d'une école vieillie. Aujourd'hui, c'est au tour de la gauche de dénoncer l'ENA et campagne oblige ses anciens élèves.
Ben, il suffit de regarder M. Juppé.
Jean-Pierre Chevènement, 28 avril 1997.
Pour constater qu'en effet, l'ENA a beaucoup vieilli. Enfin, je pense qu'un immense éclat de rire a dû accueillir cette déclaration. C'est comme si le pape, il est vrai qu'il n'est jamais réélu, avait proposé la dissolution de la curie romaine.
Merci à toutes et à tous, à commencer par Olivier Sabi, auteur de ENA, promotion Hublroy. C'était un reportage de Françoise Lefebvre. Merci à Jeanne Penaud, Françoise Dreyfus. Merci aussi à Christine Demess et aux étudiants de Sciences Po Paris. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas, si j'y suis. Vous pouvez écouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. Et puis, il y a aussi la page Facebook de l'émission à la technique aujourd'hui. Éric Morin et Michel Bézikian. Cette émission a été réalisée par Lucie Acoun et Chloé Sanchez, préparée avec Pierre-Yves Bulto et Marion Dupas. Attends vos messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
France Inter, partenaire de l'exposition aux sources de la peinture aborigène Australie, jusqu'au 20 janvier au musée du Quai Branly. Le musée vous entraîne au cœur du désert australien, à la découverte d'un des plus importants mouvements de l'art aborigène. Pour la première fois en Europe, près de 300 œuvres et objets à l'intensité brute retracent l'évolution de ce courant pictural, des premières peintures majeures au grand format du début des années 80. Retrouvez l'exposition aux sources de la peinture aborigène au musée du Quai Branly, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Vendredi, le MOVE présente la nuit Allô la planète avec Éric Lange.
Des auditeurs du monde entier au téléphone, des musiciens et des voyageurs qui débarquent en studio, on va mettre tout le monde dans la radio parce que nous sommes la seule émission à vous dire la vérité. Le 21 décembre, la Terre ne s'arrêtera pas de tourner.
La nuit Allô la planète, vendredi d'1h à 7h du matin sur le MOVE, une radio de Radio France.
Ce serait quand même drôle que ce soit vraiment la fin du monde. Non ? Ah bon. À demain, 15h pour la base, j'y suis, les infos, Laetitia Gaillet. Salut.
Pour mettre un terme aux informations parues dans Mediapart, le ministre délégué au budget, Jérôme Cahuzac, explique aujourd'hui sur son blog avoir demandé à la banque suisse UBS de certifier qu'il n'a jamais détenu de compte en Suisse. Et Jérôme Cahuzac souhaite, je cite, clouer définitivement le bec au site d'information qui l'accuse du contraire. Le gouvernement a défendu en Conseil des ministres ce matin son projet de réforme bancaire. Il est destiné à mieux protéger les dépôts et l'épargne des Français en cas de faillite d'une banque. Mais le texte n'exige pas pour autant des banques françaises qu'elles se séparent de leurs activités de dépôt, de leurs activités de marché. Les négociations sur le marché du travail ont repris ce matin pour 2 jours, mais elles pourraient être prolongées au-delà de la fin du mois de décembre. Michel Sapin a émis l'idée aujourd'hui. Selon le ministre du Travail, la négociation n'est pas un pot de yaourt. Il n'y a pas, dit-il, de péremption dessus. L'important est de voir si on va ou non vers un accord. Des youyous et des drapeaux, c'est une foule en liesse qui a accueilli aujourd'hui François Hollande à Alger. Le chef de l'État était accompagné de son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika. Cette visite d'État de 36 heures est la troisième d'un président français depuis l'indépendance de l'Algérie. Elle a pour but d'apaiser les relations franco-algériennes, mais aussi de contribuer au partenariat économique des deux pays. Les enfants nés de mères porteuses à l'étranger doivent être reconnus. La philosophe Elisabeth Badinter le réclame aujourd'hui dans une tribune publiée dans Le Monde. Tribune signée également par la sociologue Irène Théry. La gestation pour autrui est, disent-elle, une pratique reconnue comme partie intégrante de la procréation médicalement assistée par l'OMS. Elle mérite à l'avenir un débat informé et serein. Aujourd'hui, ces enfants sont les petits fantômes de notre République. Alors que leurs parents sont français, combien de temps va-t-on continuer à leur refuser l'état civil à cause de leurs origines procréatives? législative. Pour Elisabeth Badinter et Irène Théry, l'ouverture du mariage et de l'adoption aux homosexuels et de la PMA aux couples de femmes devrait permettre ainsi à toutes les unions et familles d'accéder à une reconnaissance et à une sécurisation que les institutions refusent pour l'instant. Ce matin, de leur côté, les députés socialistes ont dit oui à un amendement sur l'ouverture de la PMA aux couples de femmes. Mais dans le même temps, le chef de file des parlementaires PS, Bruno Leroux, se dit prêt à l'intégrer à un autre texte à condition que le gouvernement en présente un avec un échéancier précis. Le procès d'une mère de famille d'Avignon pour apologie du crime a été reporté aujourd'hui au mois de mars prochain. Cette femme est poursuivie pour avoir fait porter à son fils de 3 ans un t-shirt portant les inscriptions « Je suis une bombe » et « Djihad » né le 11 septembre. Des familles sans abri se sont installées aujourd'hui sur un trottoir de Paris dans le 15e arrondissement. Aidées de l'association Droit au Logement, elles réclament de véritables logements. En fait, cette trentaine de familles est hébergée depuis des années dans des hôtels et ils sont menacés d'expulsion. Les propriétaires demandent en effet à récupérer leurs biens. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice.
Le 18 décembre 2012, aux alentours de 21h30, un nourrisson de sexe masculin, Lucas, âgé de 2 jours, vêtu d'un pyjama bleu, a été enlevé à la maternité régionale située rue du Dr Heidenreich à Nancy par une personne de sexe féminin répondant au signalement suivant. Type européen, âge apparent 16-20 ans, corpulence mince, cheveux tirés en arrière avec franges rabattues sur le front. Elle serait vêtue d'un blouson, d'une chemise et d'un pantalon sombre et porteuse d'une écharpe. Elle aurait transporté le nourrisson dans un sac de couleur sombre, tenu en bandoulière. Si vous avez une information permettant de localiser l'enfant ou son ravisseur, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le numéro vert 0805-200-200 ou adressez un courriel à alerte.enlèvement@intérieur.gouv.fr.
C'était donc l'alerte enlèvement qui a été déclenchée à la mi-journée pour la disparition donc d'un nourrisson de 2 jours dans une maternité de Nancy. Tout de suite, la pub avant Frédéric Ledéon.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet pour le jeu des 1000 euros. Rendez-vous pour des enregistrements en Charente. Aujourd'hui mercredi à Château-Bernard à 18h30 et demain jeudi à Moutier-sur-Bohême à 18h30 également. À très bientôt en Charente.
Tous les dimanches, okay. À 20h10,
ouais, voilà.
Le masque et la plume.
Il est sévère.
Ah non.
Jérôme Garcin.
Rien à ajouter, non.
Littérature.
Je ne l'ai pas accablé.
Attends une seconde.
Cinéma.
C'est ça qui est intéressant dans le film. Il nous renvoie une image.
Théâtre.
Laissez-moi terminer, Jacques.
Franchement, quand le rideau est tombé, on avait l'impression que ça allait commencer enfin.
Pour assister à l'enregistrement du prochain masque et la plume.
Pardon.
Oui, mais non.
Rendez-vous ce soir, dès 19h, devant la porte B de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
France Inter.
La voix est libre.
Et c'est à vous, Frédéric Ledéon, bonjour.
Bonjour Laetitia Gaillet, on vous retrouve à 17h pour d'autres nouvelles. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Des prédictions, il y en a toujours eu. Vous connaissez évidemment celle qui arrive là pour vendredi. Mais enfin, même pas peur, c'est France Inter qui le dit. Et l'oracle, on l'a toujours consulté. L'oracle en Messénie, par exemple. C'est un opéra de Vivaldi. Et il y a eu un crime épouvantable. Le roi de Messénie et puis ses 2 fils ont été abominablement assassinés par Anaxandre, le garde du corps de Mérope. Enfin, je ne veux pas vous entraîner dans tout ça. Mais bref, il y a d'autres malheurs. Il y a un sanglier géant qui menace le pays. Et ça va se résoudre, évidemment, vous allez voir comment. Voici tout de même la symphonia d'ouverture, Allegro, donc la petite ouverture, le petit prologue, la petite introduction de l'oracle en Messénie. Allegro de la Sinfonia d'ouverture de l'Oracolo in Messenia, donc l'oracle en Messénie d'Antonio Vivaldi, interprété par l'ensemble Europa Galante, dirigé par Fabio Biondi. Donc, le malheur est arrivé, on a tué le roi et ses deux fils, un énorme sanglier est là, et ça va très très mal en Messénie, mais justement, l'oracle dit qu'il va y avoir quelque chose de formidable, puisque la Messénie sera libérée de deux monstres, on imagine c'est le criminel, et puis évidemment aussi le sanglier extravagant. Donc l'un sera vaincu par le courage, l'autre par la fureur, et le vainqueur pourra épouser une esclave de sang royal. Personne ne bouge vraiment, sauf Épitide, un peu inconscient.